J'aime les sons. Tout le temps, j'ai aimé les sons. La voix est un immense son.
C'est formidable, on voit même la bonne mère là-haut.
Les pleines voix.
Les pleines voix.
I certainly managed to garder ma voix. In my experience.
Je dois dire que la voix humaine dit tout. Et on peut toujours entendre ce qu'est une personne dans sa façon de parler.
Je suis d'ici, je suis née d'ici, je suis de famille marseillaise, je dis bien marseillaise, pas provençale, c'est pas tout à fait la même chose.
J'arrive pas à choisir. Je vais mettre la radio. Quand il suffit d'allumer.
On dit que les pneus des autos
toujours pile sur la musique qui nous trottait.
Eh bien, ils toucheront plus les routes.
Tu vas voir.
Est-ce que tu y crois?
C'est magique.
Non.
Les pleines voix. Une émission de Maria Knorr et Mélanie Métier.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour Gisèle.
Bonjour.
Merci de nous accueillir chez toi.
Volontiers, ça rien. Oh, qu'est-ce que j'ai rien à vous donner pour manger. Ce matin, j'ai fini les pâtés. Je vais vous faire voir. Il y a écrit pâté de foie de porc, maison, la date et mon nom, pour qu'on sache que c'est moi qui l'ai fait. Avec du foie de porc, du lard et du jambon que je hache. J'y ajoute des herbes de Provence, du genièvre, de l'ail, des œufs, du lait, du porto, tout ça. Et la gelée aussi, les sachets de gelée. Et je les fais stériliser, vous voyez, ils ne s'ouvrent pas. Absolument me faire parler pendant X temps. Alors par contre, ça sera un peu décousu parce que j'ai des trous de mémoire. Alors donc, je ne me rappelle pas tout ce qui s'est passé. Alors qu'est-ce que vous vouliez savoir?
Pour notre premier entretien, on était, figure-toi, de l'autre côté de la plaine. On était rue Siby. Donc là, on a juste traversé la plaine. On a pris une rue perpendiculaire à la plaine, à cette grande place que tu as dû voir bien changer. On a pris la rue Ferrari, qui est une perpendiculaire, qui descend. Au loin, on voit le massif de Marseille Vert.
Et oui, c'est avec... moi, là-bas, j'avais un cabanon, donc on appelait ça le Mont Rose. D'abord, quand c'est couvert au Mont Rose, je suis sûr qu'il va pleuvoir.
Tu regardes par la fenêtre?
Non, je ne le vois pas de la fenêtre, mais il faut que je descende. Je ne descends pas souvent parce que je ne marche pas bien, mais bon, je descends. Je vais faire quand même mes commissions. Mon docteur, il me dit qu'il faut marcher, mais je n'y arrive pas. Enfin, bref. C'est comme ça.
Donc là, on est juste à côté de la plaine et on est chez toi. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cet appartement?
Tu es pas chez moi, parce que j'ai un propriétaire, figure-toi. Alors, quand je suis rentré, il y a 50 ans que je suis là. Il n'y avait pas de salle d'eau, il n'y avait pas de chauffage, il n'y avait pas de chauffe-eau, il n'y avait pas de lumière parce que la lumière était collée. Les fils étaient collés avec un scotch et une lampe. Donc, il a fallu que je fasse tout faire. C'est pour ça que je suis sous la loi de 48, parce qu'il n'y avait rien. Il n'y avait pas, de commodité. Il y avait même le WC qui était fendu. Quand tu urinais, ça sortait par la fente. Il a fallu que je change le WC. Voilà.
Donc, c'est toi qui as fait tous ces travaux?
Voilà, je suis rentré ici en 75. Non, j'ai fait assez rapidement parce que j'avais deux petits-petits.
Tu avais deux enfants?
Ben, j'en ai un qui travaille, qui travaillait parce que là, on lui a trouvé un cancer du poumon. Donc, il travaillait plus, mais il travaillait au Petit Nice sur la plaine. Il travaillait de nuit et ça lui plaît, il aimait son métier. Donc, voilà.
Le Petit Nice, c'est un bar qui existe depuis longtemps?
Oula, je comprends, parce que quand j'étais gamine, je venais jouer à la plaine, parce que je suis née au cours Franklin, enfin, au cours de Villiers avant, qui est devenu le cours Franklin Roosevelt. J'habitais au 52, je ne me rappelle plus. Et donc, gamine, je venais jouer à la plaine. Je prenais la rue Saint-Savourné, bon, voilà. Donc, le Petit Nice était déjà là.
Et ça ressemblait à quoi, la plaine?
Ah, la plaine. La plaine, c'était un marché, mais qui était un marché, pas un boui-boui comme on a maintenant. Tout le tour du marché, de chaque côté, il y avait des allées, il y avait des marchands. Alors, il y avait des marchands qui vendaient des légumes, des fruits et tout ça, plus ceux qui vendaient des vêtements, des objets pour la maison, enfin voilà, des trucs comme ça. Mais au milieu, il y avait les enfants qui faisaient du vélo. Il y avait deux trucs de vélo. Une du côté de la rue Saint-Savournin et une du côté de la rue Ferrari, disons. Parce qu'avant, sur la plaine, il y avait un truc qui est devenu une maison moderne. C'était le balletier et le cinéma. Il y avait le cinéma. C'est beau, là. Et donc, tu allais faire ton marché tranquille, tu mettais les petits, faisaient du vélo ou du petit âne, ou ils allaient voir. Il y avait Guignol aussi. Je me régalais autant que moi. Je leur payais Guignol pour le voir moi. Et voilà. Et alors, les jours de marché, les paysans venaient, ils déballaient les melons. Ils faisaient des tas de melons et de pastèques. C'était beau à voir. Voilà. Maintenant.
Et il y avait ça au cours Julien aussi, non ?
Ah non, alors au cours Julien, il y avait le marché d'intérêt général, celui qui est maintenant au.
Au nord, le Mine. Voilà. Marché d'intérêt général, voilà. Oui, qui est aux Arnavaux maintenant.
Voilà, qui est aux Arnavaux, je cherchais ça. Mais il était au cours Julien, il y avait des camions. Un type qui n'avait pas de travail, par exemple, il allait la nuit, il déballait un camion, il avait gagné sa journée, quoi. Voilà. Moi, mon mari était portefeuille là, sur le truc, puis il est devenu directeur de magasin après.
C'était quoi, portefeuille ?
Ah, un portefeuille, c'était celui qui portait les colis. Il avait un charreton, il le remplissait de colis, il allait livrer, par exemple, les magasins, tout ça, qu'il avait acheté. Et une fois, il est descendu le cours, comment ça s'appelait ? Julien, quoi. Il a descendu, le poil a gagné, il a été obligé de lâcher le. Il y avait une tonne dessus. Il a été obligé de lâcher le charreton parce que le problème, il lui passait dessus. Il est allé s'encastrer dans le bar tabac qu'il y avait juste en face. Voilà.
Et donc, tu parlais de ton enfance quand tu étais petite, tu es née ici, tu as grandi ici. Tes parents, ils ont toujours vécu ici aussi ?
Mais mon père était corse, donc il est né en Corse, il est né à Ajaccio. Et j'ai rencontré mon mari et son père à lui était né à Bastia. J'avais les deux. Pardon. J'avais les deux côtés.
Tu avais des frères et sœurs
Alors j'avais une sœur, oui, elle est décédée depuis. Une sœur et un demi-frère.
Et donc, vous viviez dans le centre de Marseille. Tes parents, ils travaillaient à Marseille aussi ?
Mon père était, pendant la guerre, chef cuisinier à domicile. Alors, il me gardait beaucoup parce que ma mère faisait des ménages à l'armée. Et alors, il me mettait sur une chaise haute dans la cuisine où il travaillait, bien sûr. Et chaque fois que je criais, il me mettait à manger. Vous voyez, donc, depuis... Depuis, je suis rondelette, quoi.
Et donc, tu avais quel âge pendant la guerre ?
Ah ben, je suis né en 39. Alors, en 45, j'avais 6 ans, quoi. J'allais ramasser, quand il est passé les bombardements, avec ma grand-mère, on allait ramasser les trucs d'obus là, qui étaient tombés, et on les portait à mon père. Je ne sais pas ce qu'il en faisait, mon père. Hein.
Et donc, tu as souvenir, par exemple, des grands changements de quartier, comme le panier, la destruction du pont transbordeur ?
Non, pas. J'ai pas gardé de souvenirs de ça, non. Honnêtement, non. Parce que je devais être trop petite quand je descendais. Et puis en plus, pendant la guerre, on ne sortait pas tellement. On était plutôt dans les abris, quoi. Par exemple, moi, mon père, il était, donc je te dis, chef de cuisine à domicile. Et les gens avaient des caves. Et on descendait, quand il y avait les bombardements, on descendait dans les caves.
Voilà. Donc tu passes ton enfance en plein centre de Marseille, tu vas à l'école ?
Ah non. Alors je ne vais pas à l'école parce que ma grand-mère était couturière, elle cousait beaucoup à la machine, donc toute à la machine à pédales, et toute la journée elle coupait, elle cousait, mais la nuit elle ne pouvait pas, parce que ça faisait du bruit quand même. Alors, on faisait les ourlets, les surfilages, les boutonnières, tout ce qui se faisait à la main, ce que j'ai appris à faire, bien entendu. Et donc, je ne pouvais pas aller à l'école, parce que quand je me couchais, il était 5 heures du matin.
Donc, tu aidais ta grand-mère toute la nuit. Toutes les nuits.
Toutes les nuits. Mais c'est elle qui m'est levée parce que...
Tes parents étaient occupés.
Mais c'est-à-dire que mes parents s'étant séparés, je crois que ma mère avait forcé un peu la main de mon père parce qu'elle était, du côté de l'île là-bas. Et quand il faisait son service militaire là-bas et il a dû faire des choses avec ma mère. Hein, et enfin, je pense, il est redescendu dans sa famille ici. Et elle est descendue avec sa mère et sa sœur, et elle lui a dit qu'elle était enceinte de moi. Et son père, il lui a dit, si tu l'as, parce que c'était une Corse, il ne fallait pas rigoler avec ça, si tu l'as bien enceinte, il faut l'épouser. Elle lui a fait un enfant dans le dos, pour, comme on dit chez nous, pour... voilà. Et du fait, je suis là, quoi.
Et c'est comme ça que tu t'es mis à coudre et que tu continues à coudre? Tu nous disais que tu portes...
Alors, je vais t'expliquer. Je ne sais pas couper les...
Ah, les patrons.
Les patrons. Je suis incapable de... Ma grand-mère faisait ça. Elle achetait les patrons, elle le faisait. Moi, je suis incapable. Alors, je reprise beaucoup. Voilà. Dès qu'un copain ou une amie a des problèmes, je lui répare. J'ai un ami qui a un bateau. Il a eu la voile déchirée, je l'ai réparée. Un autre, il a eu les coussins du bateau à faire. Enfin, bref, tout ça, je l'ai fait. Mais bon, ça va. Et je ne me fais pas payer pour ça. C'est par amitié que je le fais.
Donc, dès toute petite, tu travailles beaucoup. Et après, quand tu es adolescente, comment c'est ton adolescence ici?
Mais c'était pratiquement pareil. Quand on m'a mis à l'école, on m'a mis à l'école du certificat d'études. Mais comme je n'avais jamais été à l'école. Oui, ma grand-mère, elle m'avait appris à lire. Alors, voilà. Mais je suis sûrement dyslexique parce que... Quand je lis, même quand je lis maintenant, il y a des lettres qui ne me conviennent pas.
Mais quand tu étais adolescent, tu continues à travailler avec ta grand-mère?
Bien sûr. Mmh. Je ne laissais pas toute seule. Pour avoir l'appartement, elle faisait les escaliers de 5 étages. Elle ne payait pas de loyer. Et donc, quand j'étais un peu plus grande, c'est moi qui les faisais, quoi.
D'accord. Et donc, tu as fait ça jusqu'à quel âge?
Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Parce que j'ai rencontré mon mari, j'avais 17 ans et demi. Après, voilà. J'ai eu mes petits en 60. Mon premier fils, je l'ai eu en 60.
Donc à ce moment-là, tu pars vivre avec ton mari?
Oui, mais même avant. Parce qu'un jour, ma mère a giflé ma grand-mère pour une raison qui m'était... Et ma grand-mère, c'était mes yeux, tout ce que... Elle était sévère, mais droite, et bon. Et puis je vivais avec elle, elle m'offrait des choses, elle me cousait des... Par exemple, ma mère recevait de la sœur de mon père des tissus de Paris, parce que ma tante elle jouait au théâtre dans la compagnie de... Comment il s'appelait ? Enfin, moi. Et elle nous envoyait des parfums. J'ai eu mon premier parfum, c'était Miss Dior. Eh bien, elle m'a fauché mon parfum, ma mère. Elle a dit que ça faisait trop vieux pour moi. Les tissus, elle faisait pareil. Elle disait, oh non, mais c'est... Ma tante, elle envoyait les tissus pour nous, pas pour elle. Et pour moi, toujours, puisque j'étais la plus grande. Et donc, comme elle disait à ma grand-mère, fais-lui une robe, ou voilà. Et elle les fauchait. Et après, elle les revendait à sa sœur, qui était ma tante, qui s'appelait Gisèle, comme moi. Et ma tante, après, elle me les donnait, parce que j'étais grandette quand même. J'ai été demoiselle à 10 ans, alors j'étais pratiquement comme ça, quoi.
Tu rencontres la personne qui devient ton mari, tu as 17 ans, et donc tu pars vivre avec lui. Où est-ce que vous allez vivre?
Ah ben, on a loué une chambre, parce que lui, il était majeur. Il avait 21 ans, il avait 3 ans de plus que moi, alors voilà. On avait peur que ma mère le fasse enfermer pour détournement de mineurs, parce qu'avant, la majorité était à 21 ans.
Et alors, donc là, tu pars de l'appartement de ta grand-mère?
Et on loue une chambre à un particulier.
Où ça?
Mon Dieu, rue du village, c'est pas loin de la plaine non plus.
Ok, oui, donc pas vraiment pas très loin d'ici. Alors, ça ressemblait à quoi ce quartier à ce moment-là? C'était quoi, je ne sais pas, ton quotidien à ce moment-là?
Mon quotidien, mais je travaillais, je faisais des ménages à la rue Cibier. Il y avait les bains chauds. Je ne sais pas si vous avez connu les bains chauds. C'était des bains où les gens, comme les salles de bain n'étaient pas toujours... Enfin, il n'y en avait pas dans tous les appartements. Et ils venaient prendre le bain là, une fois ou deux fois par semaine. Et moi, je nettoyais les baignoires, les parterres, et je gardais mes sous comme ça.
Et ça, t'as fait ça pendant longtemps?
Oh, je sais pas, 2 ans, des choses comme ça, oui.
Ah oui, pas très longtemps.
Parce qu'après, on a trouvé mes beaux-parents, quand j'étais enceinte, ils ont dit, bon, ben, venez à la maison. Mon beau-père était corse et ma belle-mère était génoise. Donc, ça faisait un mélange, c'est deux pays où la naissance d'un enfant est quelque chose, voilà, important. Seulement, toutes les semaines, on allait à l'hôtel, tous les deux. Parce qu'il y avait une chambre avec le feu d'estron qui donnait la chambre de mes beaux-parents, je ne sais pas si... Ah
ouais. Et alors, ils habitaient où?
Ils habitaient rue Nau. Et j'ai trouvé un appartement, rue des Bonnes Enfants.
Alors, pour des gens qui ne connaissent pas bien Marseille, est-ce que tu peux nous dire un peu où c'est?
Alors, la rue des Bons-Enfants, elle prend dans la rue Saint-Pierre. C'est-à-dire que quand tu descends de la plaine par la rue Saint-Pierre, la première à ta droite, c'est la rue des Bons-Enfants.
Oui, c'est à peu près à 5-10 minutes d'ici.
Voilà.
Et alors, est-ce que cette rue...
Et la rue, elle faisait l'angle de la rue des Bons-Enfants. Voilà.
Et ce quartier, il a changé?
Ce côté-là, pas tellement. La rue de Nau, tout ça, ça n'a pas tellement changé. Si, ce qui a changé, c'est que maintenant, il y a des WC dans chaque appartement. Avant, on avait la titine et le matin, on descendait au WC de tout l'immeuble, vider la titine. Le pot de chambre haut avec le couvercle et où tout le monde faisait ses besoins.
En métal,
oui. Et on descendait... Normalement, on le faisait faire aux hommes. Et nous, on avait quand même... On l'avait, eux, ils vidaient, mais nous, on avait quand même la titine. Ouais. On faisait pas le plus agréable, quoi.
Donc, vous avez vécu combien de temps avec tes beaux-parents?
Oh, j'ai dû... Mais pas tellement, parce que... J'étais enceinte et quand j'étais pratiquement au moment d'accoucher, disons, j'ai dû rester 8 mois chez mes beaux-parents. Le 9e mois, j'étais chez nous.
Voilà. Donc vous avez pris un appartement et à ce moment-là, tu t'occupais des enfants ou est-ce que tu avais un travail aussi?
Non, je me suis occupé des enfants, tout petit. Après, je travaillais avec mon mari à un bar qui faisait l'angle de la rue Saint-Pierre et de la rue des Bons-Enfants qui s'appelait Chez Gabi. Alors là aussi, il y a une épopée. Parce que je le connaissais, ce bar, puisque quand je travaillais, j'avais pas de maison pour manger. J'avais un monsieur qui faisait la peinture et qui m'avait donné son atelier. Il fallait descendre les escaliers. Et je dormais sur un divan qui était là. J'étais à la rue. J'avais frappé ma mère. Je voulais la tuer. Elle avait giflé ma grand-mère. Je l'ai tenue du 5e étage comme ça. Si c'est pas mon voisin qui était chauffeur de taxi, il s'appelait Monsieur Girard. Et si c'est pas lui qui me la lève des mains et qui la récupère en me parlant doucement, me disant « Gisèle, il faut pas le faire. C'est pas bien. » Enfin, il m'a tout. Mais j'étais tellement en colère qu'elle ait frappé sa mère que voilà, je voulais la tuer. Je voulais la lâcher du 5e étage. C'est comme ça que j'ai rencontré mon mari. Voilà. Je dormais sur les bancs de la plaine. Quand j'étais grandette, comme ça, je n'ai pas passé de bons moments quand même.
Oui, ça devait être dur.
Assez dur, oui. Mais ça vous apprend la vie, c'est bien.
C'est ce que j'allais te poser comme question.
Mais ça t'apprend la vie de vivre. Essaye de dormir, pas maintenant, parce que maintenant, je comprends qu'il faudrait que j'ai le revolver pour dormir la nuit. Et encore, moi je sais bien m'en servir, mais bon... Oui, parce que quand on est corse, à 7 ans, mon père, il m'emmenait à la campagne, il m'apprenait à tirer. Ouais. Donc, je je sais armer, désarmer, nettoyer, tout. Je sais tout faire avec une arme. D'ailleurs, longtemps, j'ai gardé un fusil, là, je ne l'ai plus. Là, tu vois où il y a la flèche, eh bien, tu vois, il y a des trous. Il y avait un fusil qui était pendu là.
Ah ouais. D'ailleurs, dans cet endroit, dans la pièce où on est, donc, c'est ton salon, ta salle à manger.
Oui, mais ça fait tout, salon, salle à manger. Ouais.
Et il y a plein d'objets.
Il y a des objets. Ah oui, mais je peux. Ça, c'est une manie. Tout ce qu'on m'offre, je garde. Oh, t'as le dernier qu'on m'a offert, je vais te le faire voir, parce qu'il est beau. Il est beau. Je trouve que c'est beau. Regarde si c'est joli. Alors, c'est pour les 18 ans de Gabriel. Alors ça, c'est mes petits-enfants adoptifs. C'est-à-dire que leur grand-père est chirurgien. Moi, je travaillais à l'hôpital. Je suis rentré, une fois que mes enfants étaient grandis, je suis rentré à l'hôpital.
Tu faisais...
des ménages. Mais j'ai fait ma carrière au bloc. Et au bloc, le patron, c'était pas... C'était moi, quoi. Il y en a même un, je ne me rappelle plus son nom, c'était un grand chirurgien osseux. Il avait deux blocs. Donc, ce monsieur opéré, il finit l'intervention, mais le malade est toujours sur la table, le temps qu'on vient de le déranger. Donc, je ne pouvais pas aller faire la salle, ce n'était pas possible. Donc, j'étais dans la salle de détente. Et ce monsieur est rentré, et moi, je feuilletais un magazine. Et il a dit, qu'est-ce que ça fait, ça, là ? Oh là là, c'était de moi qui parlait. J'ai regardé, c'est à moi qui s'adresse. Alors j'ai dit le ça, il dit que vous êtes un petit homme, monsieur. Même pas un homme du tout. Parce que pour parler de moi en me disant ça, si je tenais pas propre, vous ne pourriez pas opérer. Alors s'il vous plaît, hein, allez dans votre bureau et ne venez pas ici. Si vous n'avez pas le droit, c'est pour le personnel. Et vous, vous avez votre bureau de... Tout le monde s'est affolé. Mon Dieu, les surveillants m'ont dit, Gisèle, il va te faire renvoyer, tout et tout.
Il ne t'a pas renvoyé?
Il n'a pas dit un mot. Moi, j'ai vite été voir la supérieure de tout le bloc. Je lui ai expliqué. Elle m'a dit, mais qu'est-ce que tu as fait, Gisèle, ma chérie, on va te renvoyer. Il n'a jamais rien dit. Je ne me rappelle plus comment il s'appelait. C'est-à-dire que je parlais au chirurgien comme je parlais à ma copine de travail ou à l'infirmière que je connais depuis des années. Quoi. Oui,
c'est-à-dire que tu considérais qu'ils n'avaient pas de supériorité.
Pareil, voilà. On ne fait pas de... Ils font bien leur métier, c'est à Danube. Mais le plombier, l'électricien, le peintre, tout ça, ils font bien leur métier. On tire pas.
Et c'est des métiers tout aussi essentiels.
Voilà, bon, ils l'ont appris. Je reconnais qu'ils ont beaucoup ils ont plus de 11 ans après le bac. Donc, après, j'avais des internes qui voulaient toujours manger, prendre la garde avec moi, parce que je faisais à manger.
Ah oui, alors c'était une des choses que je voulais discuter avec toi, c'est que j'ai compris que c'était important pour toi de bien manger.
Et la preuve, tu le vois, je suis pas ronde pour rien. Je voudrais bien maigrir, mais j'y arrive pas. Bon, je sais pas, ne pas manger. Manger, c'est... Mais alors, pas... Par exemple, moi, si j'étais au gouvernement, je supprimerais les grandes surfaces, absolument. Et les fast-food, tout ça, ça n'existerait plus. J'obligerais les gens à manger correctement. Attends, ils mangent des merdes. Et tu vois, des fois, mon fils, j'ai un fils, mon aîné, il a 65 ans, et il me dit, maman, je suis passé devant un fast-food, et les papas et les mamans font manger leurs petits tout, ces merdes qu'on donne là. Et comment veux-tu qu'ils s'en sortent, ces petits, après? Comment voulez-vous qu'ils aient la santé?
Alors raconte-nous un plat que tu aimes cuisiner.
Oh, je cuisine les daubes, pas la vraie daube, parce que la vraie daube, c'est Covey, et les gens, c'est un peu fort quand même. Alors je fais, disons, un bœuf bourguignon. Je fais des pieds paquets, je fais des gras doubles, je fais des alouettes sans tête, sans les ficeler, je les fais avec la boutonnière, parce que maintenant, ils mettent la ficelle. Même les bouchers, maintenant, les bouchers, il n'y a plus de bouchers, ils ne connaissent pas les morceaux de viande, ils ne connaissent pas la coupe, ils ne savent pas découper. Enfin, moi, c'est un scandale.
Et donc, tous les matins, tu es occupé parce que tu cuisines pour ton fils, qui vient manger tous les midis chez toi.
Voilà, sauf quand il fait la chimio, parce qu'il finit tard.
Et donc, tu fais entrée, plat, dessert, comment tu fais?
Alors, il y a l'entrée. Ça peut être une quiche, ça peut être des petits trucs au fromage et aux légumes, ça peut être fait de la charcuterie aussi, quelquefois. Voilà, je fais ça. Après, je fais le pain et je fais souvent des pâtes ou du riz. Alors, selon ce que je fais, si je fais une financière et que je n'ai pas les vol-au-vent, je mettrai plutôt du riz que des pâtes. Mais je fais des sauces bolognaises, mais je fais aussi des sauces rien que de légumes, c'est-à-dire oignons, carottes, persil, une gousse d'ail, tout haché. Je fais revenir doucement. J'ajoute le coulis. Ah, et les champignons de pain. Alors ça, les cèpes, c'est quelque chose qu'il faut mettre dans toutes les sauces. Parce que vous les faites tremper, vous les réhydratez. Vous en prenez une partie que vous mettez dans le haché avec tous les légumes. Et l'autre partie, vous le coupez en petits morceaux quand la sauce est finie. Et je mets des pignons de pain aussi. Voilà. Et un gros verre de vin rouge. Ce qui vous fait la couleur sombre de la sauce. J'attends que tout soit... Et le jus des champignons. Alors vous les passez doucement. Moi, je mets une petite passoire avec un papier sopalin pour pas que la terre passe. Parce qu'il y a toujours un peu de terre. Donc voilà. Voilà, les trucs de cuisine, je ne donne pas comme ça. Ça coûte des sous, ça.
Donc l'après-midi, tu sors faire tes commissions avec ton caddie? Non.
Des fois, j'y vais le soir, mais parce que j'aime pas qu'il y ait du monde dans la rue, ça m'énerve. Mais j'essaye d'y aller le matin. C'est-à-dire que je mets la table, je prépare tout, parce que je me couche à minuit, 1h du matin, moi. Donc je prépare la nuit plutôt.
Ah, tu as gardé ça de tes années de couture avec ta grand-mère.
Et de travail aussi, parce que quand tu vas à l'hôpital, tu te lèves à 5 heures. Pour être à 6 heures, tu as la relève. Voilà. Parce que le bloc, il travaille jour et nuit.
Et tu me dis si je me trompe, mais j'ai l'impression que tu as eu une vie pas facile et tu as appris à te faire respecter. Et malgré tout, la vie... Tu aimes les gens?
Oui, j'aime bien les gens, c'est vrai. Mais je suis facilement sur le qui-vive. C'est pour ça que quand on m'a volé, je suis en colère, mais après moi, plus qu'après lui. Parce qu'il est plus punissable le tentateur que le voleur.
Il me semble que tu avais un cabanon au bord de la mer?
Oui.
Ah, donc là, tu nous montres une photo qui est sur ton buffet. D'un petit cabanon blanc.
Mais tu vas me faire défaire tout, dis ça va pas. Alors moi j'avais celui-là et un qui était par là. Pendant qu'il y avait Godin, c'est Godin qui avait... Ils ont soi-disant donné le bord de mer aux Marseillais. Ce qui fait que moi, qui adore l'eau, qui nage bien, je peux plus aller parce qu'ils ont mis des gros rochers au lieu de faire un petit passage pour aller à la mer. Tu peux plus.
Et c'est où cet endroit?
Tu as la grotte Roland, tout ça. Et tu as un village avant le port de la Bandaille.
Donc c'est le sud de Marseille?
Voilà. Tu as un village et qui a été squatté par les Espagnols qui revenaient d'Algérie, là, de souche. Les pieds noirs, mais originaires d'Espagne. Et ce terrain, c'était un terrain vague. Donc ce terrain vague, ils étaient tous plus ou moins maçons, ils se sont entraînés, ils se sont fait des petites cabanes pour... voilà.
Oui, moi Gisèle, j'aimerais bien qu'on revienne un peu dans ce quartier que tu connais bien, puisque ça fait plus de 80 ans que tu y habites. J'aimerais bien que tu nous racontes comment tu l'as vu changer, comment tu le vois aujourd'hui, par rapport à tout ce que tu as vu dans ces décennies qui se sont écoulées.
Et tu veux savoir, je le trouve... Et c'est joli ce qu'on a fait, mais c'est pas pratique. Alors, je pense que je vais aller en prison, sûrement, parce que je vais te dire quelque chose. Je pense que les gouvernants, que ce soit notre mairie ou même plus haut, ils n'arrêtent pas les choses, ils font des choses abominables. Avant, il y avait les cantonniers, ils n'y sont plus. Alors, je veux bien que les gens ne soient pas propres, admettons. Mais quand même, tous ces gens qui travaillaient, qu'on a levés sous je ne sais pas quel prétexte, voilà, tout ce qui était bien, ils l'ont levé.
Et alors, donc, quand tu sors, tu connais tout le monde dans le quartier?
Ben, je croise les gens qui habitent dans le quartier. Et ils m'appellent tous Gisèle. Parce que je ne veux pas qu'on me dise madame, ça me vieillit. Déjà que j'ai 87 ans, si encore on me vieillit, alors voilà.
Et où est-ce que tu vas quand tu sors dans le quartier?
Regarde, je sors. Alors, je vais t'expliquer. Je vais à la rue Saint-Michel faire mes courses. Quelquefois, je regardais au bord du marché, mais vraiment au bord, hein, parce que je ne rentre
mais
pas.
Mais est-ce que tu peux nous raconter un souvenir que tu as de quelque chose que tu aimais bien faire?
J'aimais faire, mais tu sais, entre mes enfants, ma maison et le travail, il n'y avait pas beaucoup de choses à faire. Hein, j'étais prise. Donc, voilà. Oui, j'allais voir les Mickey, ça me plaisait. La dernière fois que je suis allée au cinéma, il y a longtemps, puisque mes petits-enfants... J'ai une arrière-petite-fille, il y a 18 ans, 19 ans, elle va avoir. Donc, j'ai été voir Ratatouille. Le dernier que j'ai vu, c'était Ratatouille.
Et t'es allée au ballet?
Non, je ne sais pas danser. Et j'ai interdit à mon mari de danser, qui dansait très bien. J'étais jalouse comme la gale. C'est pas vrai, je ne l'interdisais pas de danser. Mais il y avait des femmes avec qui je lui disais de ne pas danser. C'est là, tu ne danses pas, je disais. Parce que tu la vois quand elle rentre dans un endroit, elle chasse d'entrée. Elle regarde les mecs qui peuvent lui plaire. Et d'entrée, c'était le mien, naturellement. Ah ben, un jour, c'était un mariage de ma nièce, ça m'a fait de la peine pour elle, mais bon. Il y a une femme qui est rentrée après que tout le monde était là déjà. Elle a fait le vire-vire des yeux et elle a choisi. Je l'ai vue dans ses yeux. J'ai dit avec elle, tu danses pas. Elle m'a dit non, je vais faire pipi. Et je sors, et avec qui danser? Je l'ai foutu à poil. Elle, lui, j'ai dit, tout déchiré son costume. Et elle, je l'ai foutu à poil. J'ai dit, comme ça, tu vas pouvoir zaguicher avec le peu que tu as.
Bon, Gisèle, on arrive à la fin de notre entretien. Merci beaucoup pour tout ce que tu nous racontes. À t'entendre parler... Tu as vraiment, oui, de la joie de vivre. Tu gardes confiance en la vie.
Mais bien sûr, je garde confiance, bien sûr. Autrement, comment tu veux vivre si tu n'as pas confiance, bien sûr. Mais ça ne m'empêche pas de... Par exemple, si on me dit, si je laisse le passage et qu'on ne me dit pas pardon, je dis pardon, madame, même si c'est un mec. Quoi. Je veux dire, il y a des choses que je ne transige pas. Oui, la vie, quand je vois des jeunes, je suis contente parce que c'est ce qui va. Et j'espère que ce sera bien. J'espère qu'ils se rappelleront qu'on dit pardon, on dit s'il vous plaît, on dit merci. Tout ça, enfin, ça fait partie de la vie. Moi, je rentre quelque part, je dis bonjour, messieurs, dames. Il y en a qui me regardent et je dis, et ceux qui ne me répondent pas, eh bien, je qu'ils leur viennent à Castapéane.
Bon, mais merci beaucoup.
Et moi, c'est moi qui vous remercie d'avoir une si gentille visite. Je suis ravi de parler de mon quartier, de ma manière de vivre. Je vous ai tout dit. Voilà. Vous savez tout de moi.
Marseille, mon ami, dès l'entrée à l'école. Avec toi, j'ai appris que l'on n'a rien pour rien. Entre les coups au cœur et ce prix sur la gueule, vaincu ou bien vainqueur, j'ai trouvé mon chemin. Marseille, mes amours, un peu tendre, un peu brute. Tu as pétri mes jours et chassé mes complexes en me jetant tout cru dans les bras de tes putes qu'ont le cœur et le cul comme la porte d'Aix. Allez, va et Marseille, allons bout au soleil, bois ton pastis et chante ces refrains de Scotto. César, prends le temps de bannisse et que Dieu te bénisse de mentir avec art. Allez, va et Marseille, ton ciel est sans pareil.
Marseille du trafic et vie de contrebande. Tu joues avec les flics, t'aimes les armes à feu. Tu te veux Chicago, mais tu as le cœur tendre. Le plus mauvais mélo te met les larmes aux yeux. Marseille, lâche-moi, moi qui connais tes failles. Tu ne me trompes pas quand tu joues les malfrats. Ne fais pas le malin, je sors de tes entrailles. Ton sein, et j'ai joui dans tes bras. Allez, va Marseille, à l'ombre ou au soleil, bois ton pastis et chante ces refrains de Scotto qui t'habillent si bien. Allez, va Marseille, va donner des conseils aux joueurs de pétanque. Parle fort, parle. Tes jours. Allez, va et Marseille,